terriennes et autres formes de vie. Sachez-le, la vérité est sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Traversez les bornes de l'espace et du temps en ma compagnie pour découvrir ou redécouvrir le meilleur du fantastique. Littérature, cinéma, télévision, les médias sont nombreux, mais la vérité reste la même, ils sont parmi nous. Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Sainte-Afrique pour l'heure fantastique, l'émission dédiée au fantastique sous toutes ses formes. Le fonctionnement est simple, un thème par émission, décliné à travers des œuvres différentes et repris pour quelques conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Lors de la précédente émission, disponible en podcast pour ceux qui l'auraient manqué, nous avons évoqué l'épineux problème du voyage dans le temps. Seconde émission, second thème. J'espère que tout le monde est sorti de table, car ce mois-ci, nous plongeons dans le gore, dans l'horreur, notre thème, les zombies. Vous avez sans doute reconnu Thriller de Michael Jackson. La référence était certes un peu facile, mais inévitable, vous en conviendrez. Et avant de passer à d'autres classiques de l'horreur, j'aimerais dédier cette émission à Dadou, qui m'a prêté de nombreux films et comics, m'initiant à l'univers des morts-vivants. Merci, super Dadou. Sans toi, peut-être qu'on regarderait encore Plus belle la vie. Tu nous as sauvés. Et quand je t'ai parlé de cette émission, tu m'as donné quelques conseils et références. Je crois bien que tu as dit quelque chose comme « Si tu fais une émission sur les zombies sans parler de ce gars-là, tu vas passer pour une rigolote. » Ce gars-là, c'est George Andrew Romero. Auteur, réalisateur, scénariste et acteur américain, Romero est tout simplement l'inventeur des zombies, le pape des films d'horreur. Sa carrière débute véritablement en 1968 avec La Nuit des Morts-Vivants, film culte qui marquera le début de l'ère zombie au cinéma. Après de petites digressions, toujours dans le genre de l'horreur tout de même, Romero revient aux zombies en 1978 avec Dawn of the Dead, traduit par le titre sobre mais efficace de Zombie en Europe. Et ça continue avec Day of the Dead, le jour des morts-vivants, en 1985. Land of the Dead, le territoire des morts, en 2005, et Diary of the Dead, chronique des morts-vivants, en 2008. J'en passe évidemment tant la liste est longue, mais si vous regardez un film qui contient le mot « dead », George Romero n'y est sans doute pas pour rien. Un grand merci donc à ce monsieur à qui l'on doit la majeure partie des films de zombies, l'autre partie est en fait en référence sérieuse ou décalée à son œuvre. Et puisque nous sommes à la radio, je ne peux malheureusement pas vous offrir d'image de Starlet au visage décomposé. Mais les films de zombies, ça n'est pas que de l'hémoglobine et des membres arrachés. c'est aussi une ambiance sonore, peut-être plus efficace à créer de l'angoisse que l'image elle-même. Pour le plaisir, le générique de La Nuit des Morts Vivants, en version originale, s'il vous plaît.
Night of the living dead to a night of total terror. Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. Adventure in fear. An experience in shock more shattering than your strangest nightmare. Night of the living dead. A night with the dead who cannot die. A night of total terror. Night. Of the living dead.
George Romero a fait des émules. Suivant son exemple et prenant ses films en référence, beaucoup d'autres se sont lancés dans les films de zombies. C'est le cas du Britannique Danny Boyle, par exemple. Si vous avez écouté la précédente émission, vous vous êtes sans doute aperçu de ma nette préférence pour le cinéma, les séries et la littérature anglaise. Et les morts-vivants au royaume de Sa Majesté, ça donne plutôt pas mal. Le film 28 jours plus tard, sorti en 2003, est même devenu culte. Pour la petite histoire, Christopher Eccleston, qui joue, admirablement d'ailleurs, le commandant en chef des militaires, tiendra le rôle du docteur dans la saison 1 de la nouvelle série Doctor Who sur la BBC en 2005. Que l'on évoque le docteur et sa petite manie des voyages dans le temps, effectuons nous aussi un petit saut à rebours, 28 jours plus tôt. C'est ainsi que débute le film de Danny Boyle, par une scène se déroulant 28 jours avant l'action principale, d'où le titre du film, vous l'aurez compris. J1, un groupe de militants défendant la cause animale, s'introduit dans un laboratoire, effectuant des expériences sur les animaux, dans le but de délivrer les pauvres bêtes. En ouvrant la cage d'un singe, une jeune femme est sauvagement mordue. Aussitôt, ses yeux rougissent, ses lèvres se retroussent sur ses dents, elle est contaminée. Du sang, des cris, puis l'écran noir, la scène est terminée.
Yeah!
28 jours plus tard, Jim, un jeune coursier, victime d'un accident qui l'avait plongé dans le coma, se réveille à l'hôpital. Seulement voilà. Au lieu des proches en pleurs, des infirmières et des médecins qui s'activent autour de lui, comme on pourrait s'y attendre, personne. La chambre est vide. L'hôpital tout entier est vide. Et en plus d'être désert, il semble avoir été dévasté, comme sous l'effet d'une panique générale. Les meubles sont renversés, les vitres brisées, et le téléphone ne fonctionne pas. Sans compter, évidemment, avec les traces de sang qui maculent les murs. Jim sort alors de l'hôpital, déboussolé. Dehors, c'est pire encore. La ville semble avoir subi une tornade ou une émeute. Personne nulle part. Seulement des débris, des voitures arrêtées au milieu de la route, et un silence qui commence à se faire pesant. L'atmosphère angoissante du film s'installe. Plus encore que les scènes d'horreur, où des zombies aux yeux injectés de sang se jettent sur des humains pour les mordre et les déchiqueter, ce sont ces scènes calmes et silencieuses où le héros marche, ignorant ce qui a pu se passer dans une ville dévastée, qui créent cette ambiance lourde et angoissante. 28 jours plus tard n'est pas qu'un film de zombies parmi d'autres. Il contient bien sûr des scènes d'action, très bien réalisées d'ailleurs. Les zombies n'y sont pas des lourdeaux ridicules aux bras tendus en avant, poussant des petits grognements. Non. Ils sont rapides, sauvages. Pas de clichés éculés de scènes de cimetière où une main sort lentement de la terre au-dessus d'une tombe. Non. Les zombies ont été contaminés par le virus de la fureur. Une goutte de sang suffit. Terminez le cliché de la morsure empruntée aux vampires. Voilà la contagion, la pandémie. Et le manugel ne suffira pas à se protéger cette fois-ci. Il faudra frapper à la tête, tout en évitant le contact du sang, noir et visqueux, sur une blessure ou une muqueuse. À ces scènes intenses, rapides, violentes, s'ajoutent d'autres moments, plus calmes, mais pas nécessairement moins effrayants. Danny Boyle, là encore, évite les clichés. Pas de blonde pulpeuse sauvée par un héros bodybuildé. Les personnages ne font pas caricature. C'est cet aspect qui me plaît dans les films et séries anglaises, beaucoup plus subtils que leurs équivalents américains. Les caractères des personnages sont complexes et évoluent dans le temps. Leurs réactions, différentes face à l'épidémie zombie, sont intéressantes et nous renvoient à nos propres questionnements. Je n'en dirai pas plus sur les épreuves et les rencontres qui attendent Jim dans un monde qui, en 28 jours, a bien changé. Terriens, terriennes et autres formes de vie ou de non-vie, bienvenue à vous qui écoutez Radio Saint-Afrique pendant l'heure fantastique. Le thème de notre émission ce mois-ci, les zombies. On continue d'évoquer nos amis les zombies avec The Walking Dead. D'abord bande dessinée, The Walking Dead a ensuite été adapté à la télévision et la série en est à présent à la saison 3. Mais, à mon humble avis, et comme bien souvent malheureusement, l'adaptation n'est pas vraiment à la hauteur de l'original. The Walking Dead, c'est donc à l'origine une série de comic books américains, dont le scénariste est Robert Kirkman et les dessinateurs Tony Moore puis Charlie Adler. Paru en 2003 chez Image Comics, le premier tome nous présente Rick Grimes, un policier américain qui vit dans une petite ville avec sa femme et son fils. Blessé au cours d'une fusillade, Rick est resté plusieurs semaines dans le coma. Lorsqu'il se réveille, le cauchemar commence. Vous noterez évidemment la nette ressemblance avec le début de 28 jours plus tard. Et tout comme Jim, Rick va vite s'apercevoir que le monde a beaucoup changé. Errant dans une ville méconnaissable, Rick, déboussolé, rencontre Morgan et Dwayne, un survivant et son fils, qui vont lui raconter les événements des semaines passées. L'apparition des premiers zombies, la consigne de se rendre dans les grandes villes pour y être protégé par l'armée. Rick décide alors de gagner Atlanta, dans l'espoir de retrouver sa femme et son fils. En chemin, il va découvrir l'étendue du désastre. Horrifié, il se rend compte que la ville d'Atlanta tout entière est envahie par les zombies. Mais Rick a de la chance, et il retrouve finalement sa femme et son fils dans un petit camp de survivants à la sortie de la ville. Dès lors, il va prendre en main la survie du groupe, devenir le chef et tout faire pour protéger sa famille, quitte à franchir parfois certaines limites. La série, adaptée par Frank Darabont et diffusée depuis 2010 sur AMC et depuis peu en France, se laisse regarder. Elle a d'ailleurs été nominée plusieurs fois aux Golden Globes et aux Saturn Awards. Reprenant l'histoire de Rick Grimes et de sa famille, elle offre des scènes assez bien réalisées, une atmosphère stressante et un suspense bien dosé. Mais, contrairement à la bande dessinée qui est centrée sur le personnage de Rick, ni vraiment bon ni vraiment mauvais, et sur l'évolution de son caractère, face aux épreuves qu'il va devoir traverser et aux décisions difficiles qu'il va devoir prendre, la série oppose un Rick, érigé en héros, bon père de famille américain à la morale bien propre, à son ancien coéquipier et ami Shane, devenu son rival amoureux, un personnage de méchant, de traître, égoïste, opportuniste et machiavélique. Cette opposition toute américaine, qui tourne au manichéisme, empêche la série de créer un Rick Grimes à la personnalité approfondie et intéressante, comme celui de la bande dessinée. La fracture de ce personnage ambivalent, les questions éthiques qui le traversent face à des situations problématiques, sont tout simplement annulées par le transfert du mauvais côté de Rick au personnage de Shane. À tous ceux qui ont vu ou vont voir la série qui vient d'arriver en France sans avoir lu la bande dessinée, profitez du spectacle. Et si vous aimez la série, commandez les comic books pour Noël, vous ne serez pas déçus. Et l'on continue nos aventures en terre zombie avec un peu d'humour. Nos trois prochaines œuvres, en effet, ne se prennent pas au sérieux, et leur traitement du thème des zombies offre un goût décalé et délicieusement parodique. Écrit et réalisé par Robert Rodriguez, Planète Terror est un film d'horreur rigolo comme je les aime. L'histoire se déroule dans une petite ville du Texas. Un agent biochimique, présent dans une base militaire, contamine la région. Rapidement, les médecins se voient amener des patients atteints d'un mal bien étrange. Ils paraissent affectés par la gangrène et leur regard devient assez inquiétant. Pendant ce temps, Sherry, Go-Go Dancers, retrouve son ex-petit ami, Ray. Alors qu'ils roulent dans le camion de ce dernier, ils ont un accident. Et Sherry est sauvagement attaquée, se faisant arracher et dévorer la jambe. Alors qu'elle est conduite à l'hôpital, l'épidémie prend des proportions catastrophiques. Et Ray décide de l'emmener pour la mettre en sécurité. Il se retrouve avec plusieurs autres survivants dans un petit bar miteux, dont le propriétaire poursuit le rêve ambitieux de créer la sauce barbecue parfaite. Après avoir été attaqué par un zombie, il découvrira l'ingrédient secret qui sublime le goût, son propre sang. Le petit groupe de survivants devra affronter des zombies de plus en plus nombreux, ainsi que les militaires à l'origine de la fuite, dont le chef est joué par Bruce Willis. On aura même droit à une petite apparition de Tarantino en militaire dégoulinant. Mais vous allez me dire, comment la pauvre Sherry fait-elle pour combattre les zombies avec une jambe en moins? Oui, va lui trouver une prothèse originale, une mitraillette. Il lui suffira alors de lever la jambe, ce qu'elle sait très bien faire, la jolie Go-Go Dancers, pour arroser les zombies d'une bonne salve. We'll be right back. l'heure fantastique continue son exploration du territoire effrayant, mais non moins marrant, des zombies. Après Planète Terror, un film d'horreur très second degré, on retourne chez nos amis les Anglais, qui sont, et c'est pour ça que je les aime, très doués pour la parodie et l'humour, avec un film qui nous montre que les zombies, ça peut faire rire. Ce film, c'est Shaun of the Dead. Un titre qui, si vous êtes un peu versé dans l'univers zombie, doit vous rappeler quelque chose, puisqu'il s'agit d'une référence au Dawn of the Dead de George Romero. Écrit par Simon Pegg, qui joue également le rôle du personnage principal, Shaun, et réalisé par Edgar White, Shaun of the Dead se définit comme une comédie horrifique ou une comédie romantique avec des zombies. Il est à noter que ce film fait partie d'une trilogie et forme avec Hot Fuzz et The World's End, prévu pour 2014, un tout nommé Blood and Ice Cream, du sang et de la crème glacée. En effet, les liens unissant ces trois films sont le réalisateur Edgar White, les glaces Cornetto et le sang, tout un programme. Shaun of the Dead fait donc partie de tout un univers décalé, voire complètement halluciné, de références et de parodies qui ne pouvaient éclore qu'au pays des Monty Python et de l'humour anglais. Le scénario est plutôt simple et correspond au type même des films de zombies. Une épidémie, d'origine indéterminée, éclate, transformant une grande partie de la population londonienne en zombies. Lorsqu'il découvre que son colocataire, Pete, est contaminé, Shaun entreprend de réunir ses proches, son meilleur ami, Ed, sa mère et son beau-père, son ex-petite amie, Liz, ainsi que ses deux colocataires, Dave et Diane, afin de les mettre en lieu sûr. Jusque-là, on est dans le stéréotype même du film de zombies. Tout y est. Les proches contaminés, le héros, l'histoire d'amour et les scènes de combat contre de monstrueux zombies. Mais c'est dans le traitement de ce stéréotype que Simon Pegg et Edgar White s'engouffrent dans le comique. Car Shaun n'a rien du héros classique. Vendeur dans une boutique d'électroménager de la banlieue de Londres, il est largué par sa petite amie Liz, qui lui reproche d'être sans ambition et de ne pas s'investir dans leur relation. Ed, son colocataire, passe sa journée à jouer aux jeux vidéo, à péter, et vend occasionnellement un peu d'herbe pour se faire du fric. Quand l'épidémie éclate, ces deux-là sont tellement à l'ouest qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Et lorsque deux zombies pénètrent dans leur jardin, c'est en leur lançant des vinyles qu'ils tentent de les repousser. Quant au lieu sûr dans lequel Shaun entreprend de réunir tous ses proches, il s'agit du Winchester, le pub dans lequel il passe toutes ses soirées. Et après quelques péripéties hilarantes, la petite troupe arrivera finalement à gagner le fameux pub. C'est là qu'aura lieu la scène la plus décalée des films de zombies, et à mon avis, la meilleure scène de cinéma de tous les temps. Je vous brosse le tableau. Le petit groupe de survivants emmené par Shaun se trouve dans le pub, qui est cerné par les zombies. Aussi s'efforce-t-il d'être les plus silencieux possible pour ne pas les alerter de leur présence. Soudain, une main s'abat sur l'épaule de Shaun. C'est celle du patron de Winchester, transformé en zombie. Il faut le tuer. Mais avec quoi ? Shaun a tout d'un coup une idée. Il distribue les queues de billard à ses amis afin de s'en servir d'arme. C'est là que le jukebox se déclenche et l'on entend au volume maximum Queen chanter « Don't Stop Me Now ». C'est sur le rythme de cette chanson, devenue la BO non officielle du film, que Shaun et ses potes vont taper sur la tête du zombie avec leur queue de billard. Mais ces dernières se brisent rapidement, et voilà nos héros désarmés. Voulant aider, Diane saisit les fléchettes et vise le zombie. « Vise la tête !» lui crie Shaun aux prises avec le mort-vivant. Ce qu'elle fait bien entendu, et elle touche la tête de Shaun qui hurle de douleur. Pendant ce temps, Dave tente d'arrêter le jukebox dont la musique attire vers le bar les zombies présents dans la rue. Ne parvenant pas à arrêter la machine, il tente d'en éteindre le fusible. Mais Dave est un peu paniqué et il ne sait pas quel fusible éteindre. Aussi les teste-t-il tous, plusieurs fois. Ce qui a pour effet de faire clignoter, toujours sur le rythme de Don't Stop Me Now, les lumières du bar, y compris celles qui donnent sur la rue, où se trouve une véritable meute de zombies. À l'intérieur, Shaun est toujours occupé avec le patron zombifié, mais il n'a plus d'armes et lutte tant bien que mal pour éviter les morsures. Ed lui envoie alors la carabine du pub, une Winchester évidemment. Shaun s'en sert pour asséner un grand coup de crosse au zombie et le plonger tête la première dans le jukebox, mettant fin par la même occasion à l'épisode musical. Cette scène, parfois appelée The Queen Scene, est, je le répète, absolument culte. Je ne peux pas vous offrir l'image, mais voilà le son. Thank you.
Tonight, I'm gonna have myself.
Who the hell put this on? Some random.
For fuck's sake.
Okay, Diane, get Mum somewhere safe. David, kill the Queen. What's the jukebox? Liz, Ed, grab some of weaponry.
What about the rifle?
It's not real. Cocktails.
What do you mean?
The flaming spirits, Drambuie, Sambuca, brandy, get a racket. Light it. What? The whole place could go up.
What then?
How about pool?
Okay, John, it's time at the bar.
Tell you, Big Al was right. Okay. But dogs can look up.
Ce n'était pas extra, franchement. Et l'on termine notre petite liste, non exhaustive bien évidemment, des œuvres sur les zombies, avec un livre, cette fois-ci, qui traite lui aussi le thème zombie avec humour et dérision. Et même si nos amis les Anglais sont, c'est indéniable, les maîtres de l'humour, c'est aux États-Unis que j'ai été chercher cette référence littéraire. Il s'agit d'un livre intitulé « Zombie, thérapie ». Écrit par Jess Peterson, il raconte les aventures de Sarah et David, un couple au bord du divorce. C'est de la SM, bien entendu, mais tout va mal entre eux et ils ne savent pas comment ranimer la flamme. Ils pensent, chacun de leur côté, à divorcer, mais tentent quand même de faire quelque chose pour éviter d'en arriver là et suivent donc, depuis quelque temps déjà, une thérapie de couple. Mais il faut dire que ça ne fonctionne pas des masses. Seulement, il va se passer quelque chose. En arrivant à leur rendez-vous hebdomadaire chez leur thérapeute, ils trouvent celle-ci en train de dévorer le couple précédent et doivent la tuer pour échapper au même sort. Dès lors, il ne leur faudra pas longtemps avant de réaliser que la ville entière a été contaminée par une épidémie de zombies. Il va leur falloir fuir Seattle et combattre les zombies ensemble. Et c'est ça qui va les aider à ressouder leur couple. Le livre est en fait écrit, avec beaucoup d'humour, comme un de ces bouquins de thérapie conjugale où chaque chapitre traite un conseil destiné aux couples rencontrant des difficultés comme Sarah et David. Des difficultés et des zombies. Je vous donne un petit aperçu des titres des chapitres. Chapitre 1, Tuer ensemble, ça soude un couple. Chapitre 9, N'oubliez pas les mots magiques, Est-ce que tu veux bien buter ce zombie, s'il te plaît, chérie, je suis à court de munitions. Chapitre 12, Nourrissez des amitiés communes, mais n'hésitez pas à y mettre un terme quand vos amis commencent à essayer de vous bouffer, etc., etc. Et au fur et à mesure de ces judicieux conseils et de leur lutte pour survivre aux zombies, Sarah et David seront plus amoureux et soudés que jamais. D'ailleurs, le pauvre David, pas très brillant dans la vie normale, qui passait son temps à jouer à Resident Evil sur son ordinateur, va mettre à profit tout ce savoir acquis et devenir un vrai héros pour sa belle, qui n'est pas en reste non plus pour jouer de la gâchette. Ce livre est truffé de références aux jeux vidéo, films et séries sur les zombies, de Dawn of the Dead à Bienvenue à Zombieland, en passant par Scooby-Doo sur l'île aux zombies. et lorsque Sarah et David décident de monter leur entreprise d'extermination des zombies, c'est avec le même humour et les mêmes super références qu'ils la baptisent Zombie Buster. Pour terminer cette émission consacrée à l'horreur, au gore et à l'humour, quelques questions de bon sens et conseils pratiques à utiliser dans cet univers fantastique. Concernant les zombies, toutes les questions que l'on peut se poser se résument en deux mots. Comment survivre ? D'où viennent les zombies et comment éviter d'en devenir un ? Comment leur échapper ? Comment les tuer ? La technique est-elle vraiment différente de celle utilisée contre les vampires ? Toutes les réponses sont sur Radio Sainte-Afrique pendant l'heure fantastique. Premier point, d'où viennent les zombies ? Contrairement aux vampires qui font leur apparition très tôt dans le folklore et la littérature, les zombies sont des créatures récentes, nées au XXe siècle, avec l'essor de la science et de la médecine. Il ne s'agit plus de magie, de malédiction, mais d'épidémie, de contamination. Expériences scientifiques malheureuses, essais militaires ratés, les explications tournent presque toutes autour de l'arme bactériologique, volontairement ou accidentellement relâchée dans l'atmosphère. Dès lors, pour éviter de devenir un zombie à son tour, il faut se protéger de la contamination. évitez donc tout contact avec un zombie, voire avec leur sang, qui transporte le virus. Mais tout cela n'est pas si simple, et les différents auteurs qui traitent le sujet ne s'accordent pas forcément. Ainsi, dans The Walking Dead, l'on finit par apprendre que tout le monde est contaminé, et que c'est la mort du sujet qui va faire aboutir la transformation. Chaque survivant est donc un zombie en puissance, et il est recommandé de se méfier des morts, qui ont la fâcheuse habitude de ne pas le rester. Dès lors, on en arrive au second point. Quand les morts se relèvent, comment éviter de finir en pâté de cervelle? Tout d'abord, ne sentez pas bon. Les zombies ont l'odorat très fin, et tout ce qui ne sent pas la charogne comme eux est un repas potentiel. Certains, comme dans The Walking Dead, iront jusqu'à se recouvrir des restes de zombies pour traverser la rue sans attirer l'attention. Sans aller jusque-là, pas de parfum, de déodorant, et on évite les douches trop fréquentes. Ce qui, de toute façon, ne devrait pas être très difficile, étant donné que la civilisation a pris fin avec l'eau courante et le bain moussant à la violette. Mais il n'y a pas qu'à l'odeur que les zombies sont sensibles. Mettre du Queen à fond est vivement déconseillé, comme nous l'apprend Shaun of the Dead. Évitez donc tout bruit, car les zombies, qui traînent parfois en horde, suivent le moindre son, musique, voix et détonation. Les armes à feu sont donc à double tranchant. Elles sont bien pratiques pour éliminer un zombie à distance sans avoir à pratiquer un corps à corps dangereux, mais à moins de posséder un des joujoux qui font « poum poum » le plus silencieusement possible, comme dans les tontons flingueurs, le bruit de la détonation risque d'attirer plus de zombies encore et de vous mettre dans un sacré pétrin. Troisième point alors, comment tuer le plus efficacement possible les zombies? Quelles sont les armes conseillées? On utilisera les armes à feu qu'en dernière ressource. Mais le couteau ou le poignard, même s'ils peuvent servir en cas de combat rapproché, ont l'inconvénient, justement, de devoir se trouver près, trop près du zombie, offert à ses morsures. Certains opteront pour l'épée, qui permet un petit peu plus de distance. J'ai pour ma part une préférence pour l'arc ou l'arbalète, qui offre les mêmes avantages que les armes à feu, sans le bruit. De plus, on peut récupérer les flèches ou en fabriquer d'autres, et l'on ne court pas le risque, comme avec un revolver, de se trouver à court de munitions. Reste un dernier point. La technique pour tuer un zombie est-elle si différente de celle utilisée contre les vampires? La frontière entre ces deux morts-vivants est parfois si ténue que certains débutants peuvent être amenés à les confondre. Mais un point essentiel les distingue. Si vous cherchez à tuer un vampire, visez le cœur, avec un pieu en bois de préférence. Si vous en avez après un zombie, visez la tête, avec ce qui vous tombe sous la main, batte de baseball, extincteur, brique, disque vinyle, hache, et j'en passe. Tout ce qui coupe, qui frappe et qui transformera la tête du zombie en pâté pour chien fera l'affaire. Et cette différence s'explique très bien. Le vampire est une créature du Moyen-Âge, époque à laquelle on tenait le cœur pour siège des émotions, tandis que le zombie apparaît au XXe siècle, où le rôle du cerveau est de plus en plus précisé. Le vampire est né dans le mysticisme et le romantisme, alors que le zombie vient d'une époque scientifique, adepte du gore et du trash. Mais une chose m'a toujours interpellée. Comment se fait-il que le vampire, qui aime pourtant à se donner un petit coup de peigne et à rajuster son nœud de cravate de temps en temps, dandy chic qu'il est, ne peut voir son reflet dans le miroir, alors que le zombie, qui néglige complètement son hygiène dentaire, le peut? Certes, l'absence de reflet du vampire se justifie par l'absence en lui d'une âme. Mais le zombie? Ce dernier est d'une autre époque, à laquelle on ne croit plus beaucoup en l'âme, ou en tout cas au rapport entre le fait d'en posséder une et celui de se refléter dans un miroir. Peut-être est-ce dû à cela, mais j'éprouve pour le vampire davantage d'attachement que pour le zombie. Le premier vous dévorera comme le second, mais au moins aura-t-il eu la correction de s'habiller correctement, avec une certaine classe d'ailleurs, surtout si l'on aime le style gothique, et de vous faire un peu la conversation avant de vous régler votre compte. Le zombie, lui, est beaucoup moins chic et romantique. Mais c'est peut-être pour ça qu'on apprécie davantage les scènes où le héros lui éclate la tête à coups de cric. « Notre petit tour à Zombieland touche à présent à sa fin. Mais si vous en redemandez, toutes les références des œuvres abordées se trouvent sur la page de l'émission, sur le site de Radio Saint-Afrique. En espérant ne pas vous avoir coupé l'appétit, merci d'avoir suivi cette émission au thème zombifiant. On se retrouve en février pour évoquer le monde post-apocalyptique. En attendant, ouvrez l'œil, car ils sont parmi nous.